SBS Radio.
Et tout d'abord, les grands titres. En Algérie, le président Bouteflika ne se présentera pas pour un cinquième mandat. La première ministre britannique déclare, je cite, que des changements légalement contraignants ont été négociés avec Bruxelles. Les tensions au sein de la coalition libérale en Australie sur une demande d'une nouvelle centrale au charbon au Queensland. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika ne se présentera pas pour un cinquième mandat. Les élections de mi-avril ont été reportées. Reportage de Florence Maurice pour Radio France Internationale.
C'est dans un message à la Nation publié par l'agence officielle algérienne que le président Bouteflika a fait cette double annonce. Pas de cinquième mandat donc, mais pas non plus d'élection en avril comme prévu. À la place, une conférence nationale chargée de réformer le système politique et d'élaborer un projet de constitution avant d'organiser la présidentielle. Objectif affiché, boucler tout cela avant la fin 2019. Il s'agit de satisfaire une demande pressante que vous avez été nombreux à m'adresser, justifie le président Bouteflika, qui devrait donc rester au pouvoir en attendant. Cette idée d'une conférence nationale, il l'avait déjà esquissée il y a une semaine dans un précédent message à la Nation. Mais à l'époque, le président Bouteflika refusait encore de renoncer à être candidat et cela n'avait pas suffi à calmer la protestation. Entre-temps, les rangs des manifestants n'ont cessé de grossir et ceux du pouvoir de se fissurer, avec par exemple hier soir ce message du chef d'état-major dans lequel il a affirmé que l'armée et le peuple algérien partageaient une vision commune du futur du pays. Autre annonce ce soir, la démission du Premier ministre, remplacé par Noureddine Bédoui, jusqu'ici ministre de l'Intérieur. Il sera chargé de former un nouveau gouvernement accompagné d'un vice-premier ministre en la personne de Ramtane Lamamra.
Les Boeing 737 MAX sont cloués au sol en Éthiopie, en Indonésie et en Chine après le crash de l'avion de la Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts, des personnes de 35 nationalités différentes. L'expert de l'aviation John Strickland déclare que c'est trop tôt pour savoir ce qui a causé le crash de l'avion.
The accident investigators have only begun their work. They can't yet deduce what may have happened. Accidents are so complex, there can be so many factors and so random that can lead to or contribute to an aircraft accident, but it's not possible to make any deductions from those pieces of apparently similar information.
Et puis David Bachet pour Radio France Internationale nous explique la fiabilité des Boeing 737 MAX déjà mise en question.
Les boîtes noires de l'appareil n'ont pas encore été analysées. À ce stade, rien ne permet de dire si l'avion d'Ethiopian Airlines s'est écrasé en raison d'une erreur humaine, d'une cause extérieure ou d'un problème technique. Mais si la fiabilité de l'avion lui-même, un Boeing 737 MAX 8, est déjà mise en question, c'est que cet accident ressemble étrangement à un autre crash, celui d'un avion de la compagnie indonésienne Lion Air. 189 morts, il y a 4 mois et demi. Le même Boeing 737 MAX 8 s'était écrasé peu après son décollage, après des messages d'alerte des pilotes, comme pour le vol d'Ethiopian Airlines. Dans la foulée, la Fédération des pilotes américains avait révélé un problème lié au détecteur d'angle d'attaque de l'avion, pouvant générer des dysfonctionnements de l'ordinateur de bord. En attendant les conclusions de l'enquête, Ethiopian Airlines a suspendu l'utilisation de ses autres Boeing 737 MAX 8. La Chine a pris une mesure similaire à l'échelle nationale, ainsi que l'Indonésie. Le Boeing 737 MAX 8 est l'appareil vedette du constructeur américain, version modernisée de son mythique 737, l'avion le plus vendu de tous les temps.
Le Brexit et Londres déclarent, je cite, des changements légalement contraignants négociés avec Bruxelles. Les députés britanniques voteront demain sur le texte modifié. Le point avec Charlotte Lalanne pour RFI.
Theresa May va-t-elle réussir son pari? Et la première ministre britannique est en ce moment à Strasbourg pour une réunion de dernière minute avec le négociateur de l'Union européenne sur le Brexit. Et elle assure avoir décroché des changements juridiques contraignants sur le point le plus sensible de cet accord, le fameux filet de sécurité. Et cet accord modifié doit éviter le rétablissement d'une frontière dure avec l'Irlande après le Brexit, et ce tout en permettant à Londres de bien quitter l'union douanière d'ici 2020. Un accord à prendre ou à laisser, a prévenu tout de suite Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Ce mardi, les députés britanniques voteront sur ce texte. Mi-janvier, ils avaient rejeté le premier accord proposé par Theresa May.
La ministre australienne de l'Industrie, Karen Andrews, déclare que la coalition libérale n'atteindra pas les objectifs de présélectionner les femmes pour la moitié des sièges susceptibles d'être gagnés d'ici 2025. Elle déclare que des mesures doivent être prises et la première étape devrait consister à ramener l'objectif de 50 à 30%.
I've talked about a 30% target because I believe that we need to develop a critical mass. Now, whilst there's a number of views on what that critical mass should be, it's generally accepted that a critical mass to make sustainable change is about 30%. Once you get to that, it can be quite self-sustaining.
Les travaillistes affirment qu'ils appliqueront toutes les 76 recommandations de la Commission royale d'enquête sur les banques, sauf une si le parti remporte les élections fédérales en mai prochain. Selon de nouveaux sondages, le changement climatique est une question clé pour les prochaines élections en Nouvelle-Galles du Sud. Les sondages montrent également que les deux principaux partis sont au coude à coude lors des derniers jours de la campagne. Les travaillistes mènent la coalition libérale, 51% contre 49%. Un sondage publié dans le Sydney Morning Herald indique qu'environ 60% des électeurs déclarent qu'ils prendront en compte le changement climatique lorsqu'ils voteront. La possibilité de soutenir une nouvelle centrale au charbon crée des divisions au sein de la coalition fédérale. Les députés du Parti national du Queensland réclament l'argent du Commonwealth pour la construction d'une nouvelle usine dans le Queensland. Le premier ministre Scott Morrison a déclaré que le gouvernement de l'État ne soutiendrait pas un tel projet. Les libéraux modérés continuent également de repousser ce plan. On écoute Trent Zimmerman, le député libéral sur l'ABC.
I think you've seen a handful of National Party MPs take a different view, but it's not the view that I believe has the support of either the government or the party room.
La chef adjointe du Parti national, Bridget McKenzie, critique Barnaby Joyce qui est entré dans le débat demandant une nouvelle centrale au charbon au Queensland. Et Barnaby Joyce se réclame aussi d'être le premier ministre adjoint élu du pays.
What Barnaby Joyce is saying publicly is very different to what the party room is saying. Michael McCormick is our leader. We all back him to the hilt. He'll be leading us to the federal election. And as a united team, we really have been able to back projects, back regional communities.
L'ancien ministre australien du Commerce, Andrew Robb, a accusé les agences de sécurité australiennes de répandre un sentiment anti-chinois. Andrew Robb a déclaré avoir quitté un emploi où il touchait 800 000 dollars par an pour une entreprise chinoise. Il a déclaré à l'ABC qu'il pensait que la décision reposait sur un manque de confiance entre Beijing et Canberra. Selon lui, les détracteurs de la Chine doivent fournir la preuve que le pays est en réalité une menace.
We see the reason for it, fine, but the evidence is not there. We see a lot of nose touching by the security people. If you only knew what I know, you'd be horrified. Well, tell us. Let us know. I was in the National Security Committee, and I've got to say I didn't learn much more than I read in the papers.
L'avocate iranienne Nasrin Sotoudeh, célèbre militante des droits humains, emprisonnée à Téhéran, a été condamnée à 7 ans de prison par la justice iranienne. Elle a été arrêtée en juin de l'année dernière. Avant son arrestation, elle a pris la défense de plusieurs femmes arrêtées pour avoir enlevé leur voile en public afin de protester contre le port obligatoire du voile depuis la révolution islamique de 1979. Précision de Shiavoz Ghazi pour Radio France Internationale.
Nasrin Sotoudeh a été condamnée à 5 ans de prison pour rassemblement contre le régime et à 2 ans de prison pour insulte contre le guide suprême, selon l'agence semi-officielle ISNA. Mais selon son mari, il y a d'autres peines de prison qui ont été prononcées à l'encontre de cette militante des droits de l'homme, soit au total plus de 30 ans d'emprisonnement. Âgée de 55 ans, Nasrin Sotoudeh a été arrêtée en juin 2018. Elle a défendu ces dernières années des journalistes, des activistes et des opposants arrêtés lors des grandes manifestations de 2009 contre la réélection contestée de l'ex-président ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad. Elle avait elle-même passé 3 ans de prison entre 2010 et 2013 pour action contre la sécurité nationale et propagande contre le régime. En 2012, elle a reçu le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit par le Parlement européen. Avant son arrestation en juin 2018, elle a pris la défense de plusieurs femmes arrêtées pour avoir enlevé leur voile en public afin de protester contre le port obligatoire du voile depuis la révolution islamique de 1979. Nasrin Sotoudeh peut faire appel de ses condamnations. Selon la loi iranienne, un condamné ne purge que la peine la plus longue parmi ses condamnations.
Le président iranien Hassan Rouhani est en Irak pour une visite officielle depuis hier. Reportage Nicolas Falaise pour RFI.
Hassan Rouhani est en visite dans un pays qui occupe une position singulière puisque l'Irak est soutenu à la fois par l'Iran et par les États-Unis. Soutien politique, soutien militaire aussi dans la lutte contre le groupe État islamique ces dernières années. La coalition commandée par les États-Unis frappait les djihadistes alors que les forces iraniennes appuyaient l'armée irakienne et les milices chiites à l'offensive contre l'EI. Tout cela rend l'équation délicate pour le pouvoir de Bagdad comme pour ses alliés. Ainsi, Washington impose de nouvelles sanctions qui frappent durement l'économie iranienne, mais l'Irak fait partie des pays qui restent autorisés à importer temporairement des hydrocarbures iraniens. Dans ce contexte, le président iranien Rouhani affiche un objectif, l'augmentation des échanges commerciaux entre Téhéran et Bagdad. Plus généralement, cette visite illustre l'influence régionale de l'Iran, influence que l'administration Trump rêve de voir reculer sur tous les fronts.
Coup d'œil météo pour ce mardi en Australie, Perth maximal de 31 degrés, Adélaïde 21, Melbourne 19, Hobart 16, Canberra 27, Sydney 32, Brisbane 34, Cairns 33, Darwin 34 et à Alice Springs maximal de 40 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi en Algérie, le président Bouteflika ne se présentera pas pour un cinquième mandat. La première ministre britannique déclare avoir, je cite, négocié des changements légalement contraignants avec Bruxelles. Et puis les tensions au sein de la coalition libérale en Australie sur une demande d'une nouvelle centrale au charbon au Queensland. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
sbs.com.au